mes deux invités. Bonjour Sandra.
Bonjour Cyril.
Parce que bon, les plus anciennes auditrices et auditeurs de Néo-Québec reconnaissent, parce que c'est un peu comme un retour assise de l'autre côté. Comment tu vas, Sandra Gassana? Je dois préciser quand même.
Ouais, ça va très bien Cyril, ça fait plaisir de revenir dans les bureaux de CIBL, dans les studios de CIBL.
Ouais. Mais de l'autre côté.
De l'autre côté. Exactement.
Avec un look, vous devez aller.
Ouais, mais j'ai plus mes locks. La dernière fois que j'étais ici, j'avais des locks. Je les ai plus.
Tu me connais, je ne change pas. Oui, c'est ça. C'était avec des locks. Et puis maintenant, voilà, c'est plutôt cheveux courts. Et puis voilà. Et celui qui a des locks, par contre, c'est Tony Nkuruziza, qui est le président du réseau des professionnels rwandais du Canada. Bon, merci à tous les deux d'être venus pour parler de cette célébration quoi autour de la Kwibukazi.
Et ça veut dire se rappeler dans la langue. Ça veut dire se rappeler.
Alors partout vous allez voir ça, ouais, Kwibuka avec le chiffre 31, donc pour la 31e année. Les autres professionnels rwandais, comment il va?
Il va très bien. Ouais. Déjà Cyril, merci de m'accueillir, de nous accueillir avec Sandra. Mm-hmm. Donc effectivement, je représente le réseau des professionnels rwandais du Canada. C'est une association qui existe depuis 15-20 ans, depuis très longtemps, qui va très bien, qui a eu trois leaderships, dont le mien depuis 3 ans maintenant. Donc ça a commencé avec Achille Oubalijolo, avec Sylvie Gassana, la sœur de Sandra, qui a suivi, et puis moi depuis 3 ans. Et c'est un réseau qui a grandi, partant de Montréal, qui s'est élargi plus au Québec, au Canada, et qui permet donc à tous les Rwandais, peu importe leurs origines, vraiment c'est un groupe apolitique, on est là pour les Rwandais de la diaspora, pour qu'ils aient un espace pour se rencontrer, se réunir et s'entraider dans leur insertion professionnelle, dans tout ce qu'ils veulent entreprendre au niveau de leur carrière.
Tout ça. Donc quand on parle de professionnels, parce que bon alors, puisque tu as cité le nom, on suit toi, tu as cité Sylvie.
Oui.
Bon, Sylvie n'est jamais venue comme quand elle était présidente du réseau. Là. Je vais recevoir une bombe après, là, mais ce n'est pas grave. Mais elle n'est jamais venue, mais je suis content de t'avoir. Sinon, j'aurais eu toute la famille Gassana dans le studio. quand on dit professionnel, on parle que de professionnels ou d'étudiants en fin d'études, est-ce qu'ils sont aussi admis?
C'est une bonne question parce que justement, c'est quelque chose qu'on clarifie, on essaie beaucoup de clarifier avec le temps. Tout le monde est le bienvenu, étudiant, chômeur, peu importe où les gens sont. On estime en fait que l'insertion professionnelle a une partie intégrante dans l'insertion sociale.
Okay.
Donc pour que les gens se sentent bien dans leur vie au Québec, à Montréal, il faut qu'ils puissent être épanouis, qu'ils sentent qu'ils aient un réseau de contact. Donc oui, c'est un espace qui... moi, j'ai vu des gens venir, des immigrants qui étaient fraîchement arrivés, des jeunes étudiants qui n'étaient même pas prêts de graduer, qui voulaient juste avoir des contacts. Et donc, on accueille tout le monde.
Ouais. Tout à fait. De toute façon, on aura le temps d'élaborer encore là-dessus. Juste un petit mot avant la pause. Par contre, page Rwanda... Sandra, parce que tu en es la porte-parole.
Exact, c'est ça, pour la deuxième année consécutive.
Deuxième année consécutive. Alors ça, Page Rwanda, ça, c'est l'association des parents et amis des victimes du génocide contre les Tutsis du Rwanda. Deux mots rapides sur cette association.
Alors écoute, cette association a 31 ans aujourd'hui, parce qu'elle a été créée vraiment juste après, en fait pendant le génocide. Les communautés vivaient le génocide à distance. Donc les parents et les amis de victimes ont décidé de se rassembler et se dire, bon, ben, on va créer une association pour venir en aide aux rescapés, mais aussi aux personnes qui sont arrivées plus après le génocide, pour qu'ils sont venus s'installer au Canada. Ils ont créé ça ensemble parce qu'ils se sentaient démunis un peu face à l'horreur qui se passait. Et depuis 31 ans, cette association est encore active. Chaque année, justement, au mois d'avril, ils se rassemblent, ils organisent des conférences, des expos, des activités culturelles dont je vais te parler tout de suite après la pause.
Donc, exactement. On fait donc la pause et puis on rentre un peu dans le vif de notre sujet.
Néo-Québec, c'est rafraîchissant. Thank you.
Au-dessus de ces collines s'élève ma voix à jamais. Au mon petit pays, au Rwanda bien-aimé. Un million de...
La Kwibuka, quand on en parle, là c'est la 31e édition, les gens se réunissent. C'est quoi? C'est la mémoire? C'est aussi la réconciliation? Ou c'est les deux?
Alors c'est beaucoup la mémoire, je dirais. Ça fait partie d'ailleurs de la devise de Page Rwanda. Il y a mémoire, solidarité, bien-être, justice aussi, qui sont les mots-clés de Page Rwanda. Donc on se retrouve pour se soutenir pendant ce mois, pour ne pas oublier, parce qu'on se dit un million de personnes parties comme ça, injustement, hein, au regard du monde entier, qui n'est pas intervenu. Donc il ne faudrait pas que leur mort soit vaine, finalement. Donc c'est une façon de se rappeler que leur nom soit cité. Donc on a beaucoup de projets, d'activités où on cite les noms, hein, on partage des photos, on fait des listes de familles qu'on a perdues. Voilà, parce qu'on se dit que c'est la moindre des choses.
C'est la moindre des choses. On attribue à Hitler cette phrase ou cette question qu'il aurait posée à son entourage juste avant d'engager la Seconde Guerre mondiale, où il a demandé « mais qui se souvient encore du massacre des Arméniens ?» Dans sa tête, c'était « personne ne s'en souvient ». Ceux qui pouvaient faire en sorte qu'on pouvait y aller. Et c'est comme ça qu'apparemment aurait été mise la Shoah en branle et tout. Donc de l'importance. Bon, quoique petite parenthèse, on parle toujours du génocide des Arméniens, mais le premier génocide du XXe siècle, c'est encore une fois, c'est en Afrique, c'est dans ce qui est aujourd'hui la Namibie avec les Hereros. Je pense que ça, c'est de 1904. C'était des Allemands qui étaient présents. Et ils ont, comme ça, exterminé toute une communauté. Bon, ça, c'est l'histoire. Mais allez regarder les Hereros. C'est les premiers qu'on a comme ça exterminés. Et donc, je reviens donc à la date, effectivement. Donc, je reviens donc à ce génocide du Rwanda, des Tutsis, pardon, parce que l'importance de se souvenir. Nous sommes, grosso modo, petite histoire rapide, disons que c'est le 7 avril 1994, donc il y a le début de ce génocide-là contre les Tutsis qui dure à peu près 3 mois. Aujourd'hui, on parle entre 800 000 et 1 million, les chiffres varient, mais
pendant
peu importe,
jours, ouais.
Pendant 100 jours, mais il y a à peu près 1 million de personnes entre les tués, les disparus, on appelle de manière globale les victimes. Et donc, chaque année, du 7 au 11, je pense, c'est sur 3 jours, si je ne me trompe
non,
pas.
Non, du 7, en fait, tout le mois d'avril.
C'est tout le mois d'avril, ouais. Ok. Ouais. Qui y a donc à travers le monde, c'est aussi bien au Rwanda que dans la diaspora, il y a donc ce moment-là de recueillement et tout ça. Et donc, quand on dit, je disais Page Rwanda, aujourd'hui à Montréal, c'est lui qui est un peu en charge de l'organisation de cet événement-là. Mais cette commémoration-là, à vous deux, qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Pourquoi est-ce qu'il est important que la société continue de se souvenir? C'est vrai qu'on y a plus ou moins répondu, mais pourquoi?
En fait, en tant que jeune qui suis né après les événements de 94, je dirais que Kwibuka, c'est une bonne opportunité de rencontrer donc les rescapés, les gens qui ont vécu même peut-être indirectement. Il y avait des Rwandais qui étaient déjà dans la diaspora, mais qui ont souffert de ce qui s'est passé parce que leurs proches étaient en train de se faire traquer, quoi. Donc, c'est toujours une opportunité d'écouter, d'apprendre sur leurs expériences personnelles. Et de forger ensuite une perspective qui m'est personnelle, mais qui vient de tout ce que j'ai appris des gens, de l'histoire, de ceux qui, de ce que j'observe, sont beaucoup plus ouverts à partager dans cette période. C'est là où les souvenirs remontent beaucoup, et c'est là où c'est très vif. Souvent, même mes parents me disent « Ah, je viens de me souvenir de quelque chose », et puis ils m'en parlent. Et on est vraiment dans un cadre qui est fait pour ça, quoi.
Mais est-ce que ça ne... quelque part, quand on est extérieur à cela, on peut se dire, mais ça va raviver peut-être des blessures. Comment... Est-ce que c'est le cas, non?
Alors, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas aux activités, qui préfèrent le vivre à la maison, chez eux, parce que justement, c'est très difficile, ils ne sont pas encore prêts. Il y en a qui, avec les années, ils sont plus ouverts à le partager, à partager ce qu'ils ont vécu. Par exemple, le 7 avril, souvent dans les activités du 7 avril, qui est l'ouverture de la commémoration, il y a des témoignages. Il y a souvent un ou deux témoignages d'une personne qui va venir en avant devant l'audience et qui va raconter son récit. Alors, il raconte voilà, ce qu'il est prêt à raconter. Donc, il n'y a pas forcément tous les détails de ce qu'ils ont vécu. Mais voilà, chacun, il va à son rythme. Mm-hmm. Des personnes, quand on les accompagne pour, quand ils sont prêts pour être là autour d'eux. Page Rwanda aussi travaille beaucoup avec des psychologues pour être là après avoir partagé un récit. Parce que des fois, justement, ça remonte, ils revivent quelque part le trauma. Mm-hmm. Donc, on s'assure justement, la question de la santé mentale est très centrale pour Page Rwanda. Pour ne pas laisser les gens partager ensuite, ok, bye, on continue avec la vie. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est important de bien encadrer le rescapé quand il est prêt à parler. Mmh. Ouais.
Qu'est-ce que un organisme, par exemple, comme le réseau des professionnels, qu'est-ce qu'il fait par rapport à, donc en termes de présent dans la diaspora, qu'est-ce qu'il fait, par exemple, c'est vrai que tu as dit que tu es le tout dernier président, là, mais qu'est-ce qu'il fait, par exemple, pour, je ne sais pas moi, préserver l'histoire, la mémoire, et puis transmettre ça, transmettre un peu la mémoire de ce génocide auprès de la jeune génération. Parce que tu vois, à l'exemple de quelqu'un comme toi, qui est né après.
Oui, en fait, notre objectif vraiment du réseau, c'est d'initier le rapport humain. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment se poser en médiateur ou en pédagogue. Ça, c'est plutôt ce qu'une association comme Page Rwanda va faire. Mmh. Ça, c'est leur mandat. Nous, on va plutôt donner un espace pour que déjà les gens aient envie de se réunir, de se rencontrer. On sait que forcément, quand il y a un génocide comme celui contre les Tutsis, on se retrouve avec une diaspora où il y a de la méfiance. Il y a des gens qui, même s'ils veulent entrer dans le monde du travail et qu'ils ont envie de rencontrer des Rwandais comme eux, ben, ils vont être méfiants, ils vont prendre leurs précautions, ils vont poser beaucoup de questions. Et nous, on est là un peu pour leur faciliter leur intégration, leur dire que voilà, ici... Il n'y a rien à craindre, on est entre Rwandais, point final. Et c'est plutôt là où on est très actif et où on prend notre rôle très au sérieux. Parce que parfois, on est la première porte d'accès à la diaspora rwandaise pour beaucoup de Rwandais qui sont seuls ici au Québec, au Canada, et qui trouvent qu'entrer par le réseau, c'est plus simple que... aller dans d'autres espaces où ils se sentent un peu moins en sécurité, mettons.
Comment cette diaspora vit aujourd'hui, pour vous, comment elle vit? Tony parlait de les événements. Et je comprends même que dans le choix des mots, on a encore du mal à dire le génocide, surtout quand ça se passe entre nous. Mais comment la diaspora, vous estimez qu'elle fait ce cheminement-là?
Alors, c'est intéressant parce que 30 ans, c'est quand même beaucoup. C'est le temps d'une génération, hein,
quelque
part.
Et c'est peu aussi.
Et c'est peu d'un autre côté aussi. Mmh. Je trouve que, alors c'est intéressant de voir comment la jeunesse s'implique plus. On le voit dans Page Rwanda, on en parlait avec Tony tout à l'heure, c'est qu'on donne de plus en plus de place aux jeunes. Parce qu'avant, on se disait, bon, ils ne sont pas encore prêts, nous on est encore là, on est encore actifs, etc. Mais justement, il y a ces jeunes qui sont nés ici, pour la plupart, ou qui sont arrivés très jeunes, et qui ont encore beaucoup de questions. Il y a encore beaucoup de questionnements qu'ils ne sont pas encore prêts à aborder avec leurs parents, parfois. Donc, Page Rwanda est là aussi pour offrir cet espace, hein, cet espace de dialogue. On parle beaucoup de dialogue intergénérationnel chez Page Rwanda. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Avec la nouvelle génération, on leur donne plus de rôles pour être... Voilà, bientôt, on aura des directeurs, des présidents de l'association de la jeune génération. Et je trouve que c'est important parce que, déjà, un, c'est l'avenir. Mais aussi, en ce moment, on remarque une espèce de... C'est comme un champ de bataille dans les médias sociaux, hein, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Les jeunes ne prennent pas forcément le temps d'aller faire des recherches, d'aller se renseigner. Donc, il y a beaucoup de désinformation. Et qui dit désinformation parle parfois de négationnisme. Alors, s'il y a un truc sur lequel on travaille beaucoup avec Page, c'est vraiment contrer le négationnisme. Parce que la désinformation, ça vient un peu contredire parfois les récits des rescapés. Parce qu'en entendant tout ce qui se dit sur les médias sociaux, les jeunes... qui cherchent la facilité, hein, les réseaux sociaux sont là pour ça, ça vient peut-être des fois détourner un peu la vraie histoire. Puis les récits de rescapés, c'est ça ce qu'ils ont vécu. Et de voir qu'on vient parfois mettre en doute leur récit ou parfois contredire même, Et c'est vraiment sur ça qu'on essaye de travailler. Et avec les jeunes, on se dit, bon, on va les éduquer, parce que ça fait partie des objectifs de PAGE, les sensibiliser aussi, pour qu'ils prennent le temps, qu'ils aillent faire les recherches. Le travail de journaliste, c'est un peu ça aussi, notre travail. C'est vraiment donner accès à des sources fiables pour que les jeunes se basent sur des choses fiables avant de, tu sais, d'aller partager ça avec leurs amis, etc. Donc, place centrale aux jeunes, ça c'est vraiment notre objectif, et aussi donner plus d'espace de leadership pour la jeunesse.
Mais lorsque tu dis place aux jeunes, même dans l'introduction, moi je me disais ben justement parler d'avenir, regarder vers l'avant. Mais justement, lorsque le jeune vous dit « oui, mais il faut qu'on tourne la page », qu'est-ce que vous lui répondez ?
Ça, c'est intéressant, ça me fait penser à l'activité sans tabou. Hein, je pense que tu as bien participé, toi.
Pour nous qui n'y étions pas,
c'est voilà, quoi, c'est une activité que des jeunes, justement, ont organisée. Ils ont dit, bon, ils sont venus voir la direction de PAGE Rwanda, ils ont dit, voilà, on aimerait une activité qui nous ressemble, où on va organiser de A à Z, tout, on va inviter nos gens, on va se retrouver entre jeunes pour parler de sujets qui nous intéressent. Alors au début, bon, PAGE, au début, on était comme, ok, d'accord, mais sur quoi, etc. Et ils ont dit, voilà, notre activité, ça va s'appeler Sans Tabou. Et on veut parler de choses qu'on ne parle pas forcément dans les activités en avril avec tout le monde. Donc, on leur a créé cet espace-là. Moi, je n'y étais pas, malheureusement, mais toi, je pense que tu y étais.
Oui, j'y étais, oui.
Et tu peux parler un peu comment c'était fort, cette activité, parce que jusqu'à aujourd'hui, on en parle encore.
Oui, il n'y avait que des jeunes, je dirais, entre peut-être 16 ans et début de la vingtaine.
OK.
Donc l'objectif, c'était de simplement parler des choses qui ne sont pas à l'aise de discuter avec leurs parents. Donc à la maison, on sait que souvent, quand on est jeune rwandais dans la diaspora, notre information, elle vient essentiellement de nos proches, de la famille et des médias. Donc si on va dans un autre espace comme l'événement Sans Tabou, là, c'est la première fois où on va se dire, ben, mes parents m'ont dit ça, mais j'ai vu ça dans les médias. Qu'est-ce que je fais, en fait? Où est la vérité, où est-ce que je me positionne? Et donc, ce qui était bien, c'est que certains d'entre nous étaient très informés, d'autres un peu moins. Donc, il y avait un peu un échange de procédés, mais surtout un échange de sources. Donc, c'est là où c'était plus intéressant. Et pour revenir sur ta question, Cyril, quand on parle de tourner la page, moi, ce que j'aime surtout dans le réseau, surtout avec les gens avec qui je suis un peu plus proche dans l'activité, c'est que j'aime faire remarquer aux gens que oui, on peut tourner la page, mais la page ne se tourne pas vraiment parce qu'il y a les résultats, les traumas, les conséquences qui passent parfois de génération en génération. Et on ne peut pas passer ça du revers de la main. Il faut essayer de comprendre. Parce qu'après, il y a des jeunes qui sont parfois, qui ont des blocages psychologiques, qui ne savent pas pourquoi ils ont peur d'aller vers les étrangers. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de faire confiance aux autres? Et des fois, c'est bien de leur expliquer d'où ça pourrait venir. Et quand ils sont plus à l'aise avec cette réalité, là, ils ne parlent plus de tourner la page. Maintenant, ils parlent de seulement embrasser leur histoire.
Leur histoire,
et d'aller de l'avant, mettons. Mais tout en souvenant.
Et ça, j'imagine que PAGE Rwanda, justement, a ce genre de cas, parce que tu parlais tantôt de santé mentale, Sandra. Tu disais qu'il y avait ça.
Exactement. Ça, c'est un sujet sur lequel on accorde même une journée spéciale dans la programmation sur la santé mentale. L'année dernière, je pense, on avait invité des chercheurs, mais aussi des psychologues, etc., pour parler de ça. Parce que justement, on voit aussi certains symptômes chez les jeunes qui n'ont pas vécu ça, mais qui ont des troubles. Donc, ils se disent, bon, on parle de transmission du trauma d'une génération à l'autre. Et c'est vraiment ces questions-là. Donc, voir pourquoi ces jeunes aujourd'hui ont des problèmes. Alors, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être... Mais c'est des choses qui... Voilà, il y a peut-être un espèce de mal-être qui a été transmis. Et on essaie d'être là pour eux, pour répondre à leurs questions, pour qu'ils comprennent mieux leurs parents aussi. Parce que certains parents, justement, à cause du trauma qui est tellement fort, n'arrivent pas à parler de ça. On a eu un projet, d'ailleurs, Histoire de vie Montréal, à l'Université Concordia, dans lequel on a recueilli presque 85, pour être exact, récits de vie de Montréalais, de Rwandais Montréalais. Et justement, beaucoup, en partageant leur histoire, ils disaient, ben, on en parle ici, parce qu'on n'a jamais pu en parler à nos enfants. Donc nous, on vous confie nos récits pour que, quand on part ou plus tard, vous pourrez donner accès à ces récits à nos enfants. Donc la communication est encore difficile. Donc tourner la page, c'est encore trop dur de le faire. Donc voilà, on se dit non, on va apprendre notre histoire et puis se l'approprier.
Se l'approprier, effectivement. Voilà. Parce que ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. On a toujours comparé, justement, au-delà d'abord du génocide, pas le génocide, on n'a pas comparé le génocide, mais les conséquences et l'après-génocide des Tutsis au Rwanda à le génocide, la Shoah, comme on dit, c'est-à-dire en termes de préservation de la mémoire. Donc je vous posais la question tantôt intentionnellement, c'est-à-dire que quand on vous dit tourner la page, comment les gens réagissent, c'est-à-dire parce que vis-à-vis de la Shoah par exemple, et puis la préservation que les personnes juives entretiennent, la façon dont elles entretiennent la mémoire de cet événement-là, pour reprendre le terme de Tony, mais lorsqu'il s'agit de nous, du moins lorsqu'il s'agit de nous en tant qu'Africains, lorsqu'il s'agit de nous en tant que Tutsi, lorsqu'il s'agit de nous en tant que Rwandais, là soudainement c'est « Oh oui, mais il faut tourner la page. » Alors, est-ce que c'est lié au fait que, voilà, que c'est récent? Est-ce que c'est à cause de ça qu'on a tant de mal à assumer quelque chose qui est juste une réalité? Je voudrais vous entendre là-dessus.
Bene kanyarwanda turumwe nye hoshimureke kwita na rubanda
Je reviens pas à notre question juste avant la pause là où je disais en fait ce souci de préservation, c'est-à-dire que on voit aujourd'hui lorsque vous prenez n'importe qui, bon, j'exagère, mais quiconque vous parlez là de la Shoah, est-ce que tu sais ce que c'est? Il va dire, ah oui, mais c'est ça, l'extermination des Juifs par les Allemands, du moins sous le régime du Reichstag et tout ça. Puis, voilà, aujourd'hui, on entretient cette mémoire, donc tout le monde retient ça. Ce qui fait que, dès que quelqu'un parle d'ailleurs, en ce moment, on vous dit, par exemple, principalement en Europe, dès que vous dites quelque chose, tiens, par exemple, en dénonçant ce qui se passe en Palestine, en fonction des mots que vous utilisez, on va vous dire, ah, attention, c'est de l'antisémitisme. Moi, je le dis en tant que quelqu'un qui est d'origine camerounaise, voyant ce qui est arrivé au Rwanda, et je vois aujourd'hui ce qui se passe avec, donc justement, cette Kwibuka qu'on fait tous les ans. Aujourd'hui, on est à la 31e édition. Je me dis, mais justement, c'est fait aussi dans une optique, de préserver la mémoire, mais surtout de dire plus jamais ça, la fameuse expression. Est-ce que je suis complètement dans le champ ou vous pensez que oui, c'est ce qui soutient aussi cet événement-là?
C'est absolument ça, c'est ce qui est crucial, c'est qu'il faut qu'on apprenne de nos leçons. Okay. Hein. On n'a pas appris de la Shoah, on a eu autre chose. Mm-hmm. On n'a pas appris du Rwanda, on voit autre chose. Mm-hmm. Donc c'est qu'il faut que l'histoire nous donne des leçons et que le fameux plus jamais ça, je ne sais plus qui avait dit cette phrase, mais quel est du sens, sens réel. Et malheureusement, on n'apprend pas de nos leçons, non. L'humain étant l'humain. Mmh. Donc on voit des parallèles, donc on voit les mêmes étapes parfois, presque identiques des différentes étapes avant d'arriver à un génocide. Et là, on est là, on regarde, tu vois, impuissant. Donc c'est un peu ça. Donc c'est important de s'en rappeler pour que notre histoire soit connue.
Soit connue, partout, ouais.
Mmh. Les prochaines générations, même dans 100 ans, on se rappelle qu'au Rwanda, il y a eu ça. Mais aussi qu'ailleurs, on n'est plus affaire à des atrocités comme ça. Donc voilà,
c'est le plus jamais ça. Mais tu parlais justement donc des nouvelles générations. Je me tourne vers toi parce que tu disais, tu es né toi, justement, après ces événements tragiques-là. Aujourd'hui, tu es à la tête d'un réseau de professionnels. On est à Montréal. Vous aidez mutuellement à vous insérer dans le monde du travail. Tu as expliqué parfois les réticences que peuvent avoir certaines personnes, mais justement le réseau est là pour dire non, venez, vous êtes dans un safe space, comme on dit aujourd'hui. Mais quelle autre démarche vous mettez en place pour aller plus loin, pour justement aider les gens d'abord à comprendre ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a d'autres types d'activités que vous menez pour garder les gens pour préserver la mémoire, pour faire connaître ce qui s'est passé?
Oui, c'est pour rester sur le sujet des jeunes. Il y a effectivement une autre activité. Il y a un Rwanda Youth Tour que j'organise avec d'autres jeunes professionnels de la diaspora qui ne sont pas au Canada, ils sont en Belgique. Mais ça va être la 5e édition cet été. On organise en fait un voyage de 2 semaines au Rwanda. Donc on amène des jeunes de tous les pays, États-Unis, à Canada, Europe, d'Australie, de d'autres pays africains, tous rwandais d'origine, majoritairement qui sont nés dans la diaspora. et puis on les amène pour découvrir leur histoire, et donc pour aller vraiment aux origines. Parce que ce qui est important, je crois aussi dans tout ce qui, quand on parle de mémoire, c'est que oui, on parle de ce qui s'est passé pendant 3 mois, mais il y a tout un processus qui a mené à cet échec. Quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est qu'il y a eu un processus de déshumanisation. Il y a eu toute une génération de Rwandais qui a été préparée à ce qui s'est passé le 7 avril en 1994. Mm-hmm. Donc quand je vais avec les jeunes au Rwanda, on passe beaucoup de temps à discuter de cette partie. Et donc, on essaie vraiment de les outiller pour que quand ils reviennent dans leur diaspora, ils comprennent pourquoi c'est important d'amener les bonnes informations pour éviter qu'on ait cette désensibilisation. Quoi, pour demain, si ça se repasse, les gens auront peut-être été préparés encore une fois. Quoi.
On croise les doigts que ça se repasse. Toi, tu disais que tu as emmené les jeunes et que c'est que des gens d'origine rwandaise. Bon,
Pas seulement. On invite tout le monde. Hein,
d'accord. Est, ouais, là, tu me rassures. Là, voilà, parce que ça fait un an là, que je cours après Achille, Oubalidiro. Je cours après lui parce que je dis je vais aller au Rwanda. Quand il y va, là, il met ses photos de vacances et tout. Je lui dis, voilà, j'ai envie d'aller là. Ouais, il fallait bien que je le tacle publiquement. Là, je le tacle. La prochaine fois, préparez, mettez un petit siège pour tonton Cyril. Là. Je vais venir m'asseoir à côté et puis, et puis y aller. Ça me fera plaisir. Non, de manière, redevenons un peu plus sérieux. Non, mais c'est bien, justement, cette idée-là. Alors, pour les non-Rwandais. Et quand j'entends parler non rwandais, j'ai envie de parler de nos compatriotes là qu'on voit passer dans la rue en ce moment. J'entends parler les Québécois ou des gens vraiment d'ailleurs. Un événement comme celui qui va commencer demain, je me retourne vers toi Sandra. Page Rwanda, qu'est-ce qu'il y a de prévu? D'abord, à qui est-ce que c'est ouvert? Mais qu'est-ce qu'il y a de prévu? Est-ce qu'on peut passer à travers les événements?
Il y a plusieurs activités qui sont prévues. Donc, ça commence toujours le 7 avril avec une cérémonie d'ouverture. Donc, cette année, on va faire ça au Musée de l'Holocauste de Montréal. Donc, on parlait justement de nos partenaires de la communauté juive. Donc, ça va être au 51-51 chemin de la Côte-Sainte-Catherine à 18h.
Oui,
donc,
parce que je pense qu'on est en train d'en construire un autre. Oui, il est encore en construction sur Saint-Laurent.
Hein. Ah, ok. Ouais. Okay. Pour le moment, ils sont encore là-bas. Ouais. Alors, pour l'occasion, nous aurons plusieurs députés qui ont confirmé leur présence, des députés fédéraux, provinciaux et municipaux. Donc, souvent, il y a des discours du président de Page Rwanda aussi, Bertin Mouizi, qui va être là. Et comme je disais tout à l'heure, il y a souvent un témoignage qu'on insère dans la programmation. Pas très longue, une petite quinzaine de minutes, quelqu'un qui va partager.
Non, mais le temps n'est pas important.
C'est exactement,
le
voilà.
Ça, si on souvent, y va, je pense que c'est vraiment long, pour entendre les gens.
Exactement, c'est vraiment ça. Avec nos partenaires de longue date, donc la communauté juive, comme on a dit, mais la communauté arménienne aussi, avec qui on collabore aussi depuis très longtemps. Donc, ça, c'est pour le 7 avril, 18h à 20h, 2h, voilà, pour lancer vraiment la commémoration. Ensuite, samedi prochain, le 12 avril, de 14h à 16h, ça va être probablement à l'Université Concordia. Oui, c'est à l'Université Concordia. Il y aura un bilan de l'exposition Cartographie de la mémoire qui a été fait au mémorial de Kigali, de Guy Sozi. Donc, ça va être un bilan qui va être partagé par deux personnes, deux membres de Page Rwanda qui étaient là, qui étaient à Kigali au mois de juin de l'année dernière. Et donc, cette exposition, c'est une collaboration entre le Centre d'histoire orale de Concordia et Page Rwanda. Et donc, c'est une façon de cartographier la mémoire à travers des récits, à travers des cartes. Donc, les personnes partagent vraiment géographiquement où est-ce qu'ils étaient pendant le génocide. Et puis, tu as une espèce de toile de fond, finalement, où tu vois un peu le récit de la personne à travers la carte. Donc ça, ça va être très, très intéressant, un bilan qui va se faire. Et tout de suite après, il y aura la projection d'un film documentaire, ça s'appelle « Beyond the Genocide », d'un réalisateur qui s'appelle Zion Suleiman Mukasa Matovu, qui est un réalisateur jeune d'ailleurs, donc on parlait de la jeunesse. Il a 27 ans, mais il a déjà fait un documentaire. Il est moitié rwandais, moitié ougandais.
Okay.
Et puis, pendant ses voyages au Rwanda, il se demandait toujours, il se questionnait sur... Le vivre ensemble, post-génocide, il se disait, mais comment... Donc, en fait, ça l'intriguait un peu, l'histoire du Rwanda. Donc, il a fait un film là-dessus. Donc, on encourage. Hein. Là, on voit vraiment le rôle de la jeunesse dans ce devoir de mémoire-là. Donc, ça va être à Concordia, de 14h à 16h, le 12 avril. Et on termine toujours de la même façon. Le 26 avril, ça va être les activités de clôture.
Okay.
Donc souvent, c'est en trois parties. Donc il y a d'abord une messe au début. Ça va commencer à 14h à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Ensuite, après la messe, on marche tous jusqu'au fleuve Saint-Laurent.
Okay.
Et là-bas, tous ensemble, on fait un geste très symbolique. On jette des fleurs dans le fleuve Saint-Laurent. À la mémoire, justement, de tous ces corps qu'on a jetés dans les fleuves, pendant le génocide.
Ça, c'est quel jour, la marche ?
Ça, c'est le 26 avril.
26 avril,
c'est un samedi aussi.
Un samedi, ouais.
Donc, messe, ensuite la marche, et on termine avec une vigile qui commence cette fois-ci à 18h. Ça va être au centre-ville, sur la rue Mansfield. Et là, c'est un peu un moment de recueillement. On se retrouve tous en clôture ensemble. Il y a des chants, de la musique qui rappelle un peu le Rwanda, des récits, des partages. Souvent, c'est prévu, donc on sait qui va partager. Et parfois, c'est juste des personnes qui se mettent debout et qui racontent un peu leur récit. Donc ces soirées souvent terminent très tard, on finit parfois à minuit, 1h du matin. Donc on est là, on mange ensemble, on boit ensemble et on commémore ensemble. Mmh. C'est comme ça qu'on termine chaque année.
En tant que porte-parole, là c'est ta deuxième année, mais au-delà de ça, tu as participé aux différentes commémorations quand même depuis que tu es là, Tony, j'imagine aussi. Mmh. Là, sur un plan purement personnel, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous pouvez nous partager de ces commémorations quand vous y assistez? Est-ce que vous y assistez parce que... Non, je ne vais pas pousser jusqu'à là, parce que je vais vous demander, est-ce que vous y assistez parfois parce que, bon, allez, hop, je suis rwandaise, j'y vais, ou
non.
Vous en tirez quelque chose, ou vous donnez, ça vous apporte quelque chose?
Beaucoup. Moi, j'ai commencé mon implication avec PAGE dans les années 2000-2001, à peu près. Je venais d'arriver, ça faisait 3-4 ans que j'étais au Canada, et... En fait, comment je me suis impliquée, c'est qu'à l'époque, il y avait un génocidaire qui habitait au Québec, dans la ville de Québec, Léon Mugesera, qui était, qui vivait très paisiblement, alors qu'il était impliqué. En fait, il avait incité à la haine.
C'est un nom qu'on connaît au Québec. Mm-hmm. Il a fait la une des médias et
exact.
Tout à fait.
Donc là, il y a eu une mobilisation. C'est à ce moment-là que je participais aux manifestations. On allait à Ottawa, au Parlement, pour vraiment insister pour qu'il soit jugé au Rwanda. Et ça a marché. Après beaucoup d'années de mobilisation, ça, on a réussi à faire ça. Mmh. Donc là, c'est comme si j'avais eu un exemple concret de qu'est-ce que ça implique vraiment. Tu sais, PAGE Rwanda, puis le travail de PAGE Rwanda. Et là, c'est comme ça que c'est. Tout naturellement, chaque année, c'était un truc que je ne pouvais pas manquer. Mmh. Tu vois. Et aujourd'hui, j'y vais avec mes enfants. Donc, tu vois, ils ont 10 ans, 8 ans. Et ils savent qu'au mois d'avril, il y a des activités que maman, il faut qu'on aille avec maman.
Tout à fait.
Ils retrouvent d'autres jeunes. Alors eux, ils aiment bien le côté
oui,
se retrouver d'autres jeunes, tu vois.
Ouais, pour le moment, ils n'ont pas la
conscience. La phase
de
l'église, ils aiment moins. Ouais. Chaque fois, ils me disent, maman, mais l'église, c'est long et tout. Mais c'est un moment, pour eux, ça fait partie de notre programme.
Tout
tu vois,
à
donc
fait.
Il n'y a pas de questionnement. Je sais qu'en avril, j'arrête mes activités pour me concentrer dans ça.
Mm-hmm.
Donc c'est limite, je ne peux pas manquer quoi.
Tout à fait. Oh, oh. Avant que Tony ne prenne aussi la parole pour répondre, avec les années d'expérience, de présence, je vais plutôt dire ça comme ça, comment estimes-tu l'implication ou l'adhésion ou la simple curiosité des autres communautés vis-à-vis de la Kwibuka à chaque fois qu'il y en a une?
Alors, c'est intéressant. Il y a beaucoup de non-Rwandais qui participent à nos activités. Et de plus en plus, j'ai l'impression qu'avec les dernières années, je vois qu'il y a beaucoup de Rwandais principalement, mais des non-Rwandais aussi, qui adhèrent soit parce que c'est des partenaires de longue date, donc Concordia. Beaucoup de gens de Concordia viennent. Beaucoup de gens de la communauté juive sont là, arméniennes. Donc, c'est comme si on se soutient. Cette période-là, tout le monde se soutient. Et surtout, c'est triste, mais le mois d'avril, c'est là qu'il y a eu le plus... En fait, la plupart des génocides se sont passés au mois d'avril. Mm-hmm. Donc, bizarrement, c'est comme si on a besoin de vivre ça ensemble.
Et d'autres communautés africaines?
Alors, d'autres communautés africaines... Oui, mais pas tant que ça.
Individuellement, peut-être.
On aurait pu. Oui, parce qu'ils connaissent un ami.
Oui, ils connaissent
etc.
un ami, mais
voilà.
Ils ne viennent pas en
mais y a
tant
pas
que.
Comme... Oui, ouais. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait peut-être encourager un peu plus. Mais oui, j'ai remarqué qu'il y a moins de communautés africaines. Enfin, il n'y en a pas beaucoup.
Mm-hmm.
C'est vraiment individuellement. Et c'est dommage, hein, c'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler, mais le dire,
je pense que c'est aussi, ça sert aussi au fait qu'on se retrouve ici aujourd'hui, c'est de quelque part de se dire, ouais, c'est bien, on est ensemble, mais c'est aussi bien de prendre part à ce type d'activités qui, pour moi, sont quand même, nous construisent un peu nous tous, quoi. En plus, là, on a la chance. On a, en diaspora, je ne leur demande pas de quitter Yaoundé, Abidjan pour aller à Kigali. Quoique, s'ils ont les moyens, pourquoi pas. Mais ici, je pense que quelque part, c'est le minimum aussi. Alors, est-ce qu'il faut que ce soit Page Rwanda qui prenne le lead? Est-ce que c'est le réseau qui devrait inviter? Moi, je lance ça comme ça parce que je pense que ça vaut quand même la peine de montrer que voilà, ça nous concerne. Ça nous concerne.
Des collègues, par exemple, il y a des gens qui invitent leurs collègues, qui disent voilà, moi, ce mois-là, on a beaucoup d'activités. Donc, on voit des gens qui viennent avec des personnes de leur entourage parfois. Mais on parlait de ça tout à l'heure avec Tony, c'est que en avril, les autres associations, ils savent que c'est Page qui prend le lead.
Okay.
Donc il y a beaucoup d'activités du réseau, par exemple,
qui vont mettre en stand-by, voilà,
en attendant. On va faire ça après, en mai, tu vois, le reste de l'année. Mais non, Page Rwanda vraiment a pris son leadership. Hein. Donc il y a eu beaucoup de différents comités, de différents CA au fil des années, au fil des 31 ans. Mais c'est ça, chaque CA apporte sa couleur, fait ses changements, etc. Et l'objectif, c'est que dans le futur, le CA soit composé que de jeunes.
Tout à fait. Mais ceci dit, garde encore la parole. Quand tu parles de Page Canada, Page Rwanda, pardon, qui fait ces activités-là, tu viens de nous les donner, elles sont à Montréal.
Oui.
Mais il se passe quoi à Québec? Il se passe quoi à Ottawa? Il se passe quoi à Toronto? Où je pense qu'il y a il y a aussi des Rwandais là-bas.
Absolument. Alors, on a des associations sœurs.
OK.
Voilà. À Gatineau, Ottawa, par exemple, on a l'association Humura, qui veut dire en Kinyarwanda, c'est comme un mot pour, tu sais, quand tu as de la peine, pour dire, voilà, tout va bien aller. C'est comme un mot d'encouragement dans la douleur.
Le fameux « ça va aller » de la COVID.
C'est ça, genre, Humura. Donc, on est on est vraiment des associations sœurs. Je sais qu'il y a aussi une association à Winnipeg, il me semble. J'ai oublié leur nom. Et je sais qu'il y a 3-4 associations, mais vraiment qui font exactement ce qu'on fait. Donc, chacun, on se mobilise pendant le mois d'avril. Quand les uns peuvent aller dans les associations, dans les activités des autres, ils le font. Ce n'est pas toujours le cas. Mais oui, on a notre équivalent à Ottawa. À Winnipeg, à Toronto et dans la ville de Québec aussi.
Tout à fait. Tony, je sais qu'on parlait de la Kubuka, mais ça fait partie d'un tout. Le réseau, finissons avec le réseau des professionnels rwandais. Au début de notre discussion, de notre échange, tu as dit ben, ça va, les choses se passent bien. À part ça, comment ça se passe? Vous êtes combien aujourd'hui?
En fait, on est très actifs sur les réseaux sociaux. Okay. Donc, globalement, je ne saurais pas trop vous dire combien on est au total. Mais on a, par exemple, des groupes sur LinkedIn de 500 personnes. Sur les réseaux sociaux, Instagram, on a une population qui est un peu plus jeune, qui est un peu plus sur Instagram. Qui sont
vos activités, c'est quoi?
En fait, on fait... C'est-à-dire qu'on fait, dans le gros, on fait exemple des networking, donc des événements des 5 à 7, de réseautage. Il y a aussi le comité avant moi, Sylvie, qui a fait aussi beaucoup d'événements d'éducation. En fait, comment préparer un CV.
Mais je vous ai dit, elle ne m'a jamais invité. Donc.
Ah oui.
Je vais dire à Sylvie. Sylvie, si tu nous écoutes.
Ouais. Mais en fait, donc, il y a de l'éducation, du réseautage. Mais dans le day-to-day, comme j'aime dire, il y a beaucoup aussi d'aide... c'est-à-dire des gens qui vont venir me voir, qui vont me dire, OK, surtout des jeunes qui finissent leurs études, qui ont besoin d'entrer dans le marché du travail, qui ont besoin que quelqu'un leur tende la main. Et souvent, ce que je fais, c'est un peu connecter les gens. Quoi. Donc les Rwandais moins jeunes, qui ont de l'expérience, qui sont bien établis, mais qui ne connaissent pas forcément les jeunes, sauf si c'est leurs enfants, par exemple. Ben là, donc on va vraiment être là pour faire le pont entre les générations. Et c'est d'autant plus pertinent quand on sait que, comme je dis, quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans, on a des gens qui ont survécu, qui sont dans notre diaspora, qui sont méfiants, donc leurs enfants sont aussi méfiants. Donc quelque part, il faut qu'il y ait une tierce partie pour prendre cette responsabilité, parce que sinon, ça sera difficile, en tout cas pour les Rwandais de notre diaspora, d'aller vers d'eux-mêmes vers l'inconnu, même s'il est rwandais. Quoi.
J'aimais bien aussi les lives que tu faisais.
Oui, il y a aussi, oui, y a aussi des lives, c'est-à-dire des discussions en live que j'ai fait avec des Rwandais de tous âges, de tous domaines différents, parce qu'on a... On a la chance d'être vraiment une communauté qui est établie dans tous les domaines possibles, dans les médias aussi, mais dans la finance, dans la comptabilité, des gens qui sont dans le droit, qui sont dans la recherche médicale, dans la santé. Ils sont vraiment dans tous les domaines possibles. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que quand je regarde notre diaspora rwandaise, je vois un peu deux groupes distincts. Okay, je vois des gens qui sont venus il y a 30 ans, dans les années début 2000, qui sont venus dans l'esprit de vraiment survivre, donc qui ont fait des sacrifices, comme on le sait, tous les immigrants le savent. Il y en a qui ont laissé tomber leur carrière, qui ont changé. Il y en a d'autres qui sont retournés aux études. Mais il y a un deuxième groupe qui, lui, me ressemble plus, donc cette génération qui est soit née ici ou qui est arrivée très jeune. Mmh. Et nous, on a un peu le luxe du choix. C'est-à-dire que nous, on a étudié ici. Et puis, il y en a qui veulent devenir acteurs, il y en a qui veulent devenir comptables, il y en a qui veulent devenir artistes. Et donc, il faut qu'ils comprennent, et c'est le but des lives que j'ai fait, où j'ai rencontré peut-être 15-20 individus différents. C'était de leur montrer que oui, même si la génération d'avant vous a beaucoup parlé du fameux « deviens médecin » ou quoi, ben finalement, vous avez le luxe du choix. Et il y a des Rwandais qui sont déjà dans votre domaine. Et qui peuvent vous aider.
Vous aider, tout à fait. Ouais. OK, non, donc il y a du travail. Pour terminer, quelle est la force de 1 à 10, là, quelle est la force d'attractivité du pays par rapport justement à ces jeunes-là?
Ben, moi, je dirais pas 10 pour faire un peu original, je vais dire peut-être 9.9.
OK.
Parce que franchement, quand on regarde la région, quand on regarde même le continent, il y a des mesures qui ont été prises, exemple, il n'y a plus de visa, par exemple, pour les Africains. Mmh. N'importe quelle personne qui a un passeport africain peut aller sans visa au Rwanda. Et ça fait maintenant que Kigali est devenue comme une espèce de ville cosmopolite où les gens, vraiment de tout acabit. Donc il y a des gens, des jeunes, des moins jeunes, il y a des gens qui viennent vraiment de l'étranger, des locaux. Tout le monde se rend compte, a une vie assez active, que ce soit dans le professionnel, dans le divertissement. Mmh. On sait maintenant il y a des stades qui sont construits maintenant, il y a des artistes américains qui, donc c'est vraiment devenu les gens quand ils viennent un peu ils ont le choc de se dire oui c'est effectivement au Rwanda il y a deux mondes aussi, il y a des villages aussi, il y a des contrées un peu plus lointaines où c'est une autre réalité, mais c'est un pays qui te donne vraiment toute la vue d'ensemble de ce qu'est l'Afrique de 2025, son côté cosmopolite, son côté traditionnel en même temps agricole et tout ce qu'on aime.
Merci à vous deux, vraiment merci d'être venus partager ce petit moment avec nous. Je sais qu'on aurait pu aller dans tous les sens, parce que quand on pense à la Kwibuka et comment les choses vont se passer, les gens s'attendent peut-être, et je préfère le dire tout de suite, c'est-à-dire ils s'attendent à ce qu'on revienne sur l'histoire du génocide et ainsi de suite. Ce n'était pas du tout l'objet, moi, de cette discussion ou échange que je voulais avoir avec vous. Non, c'était de voir en quoi ça consiste et de regarder vers l'avenir, mais surtout avec notre œil de diasporien, si je puis le dire ainsi. Je remercie mes deux invités, Tony Nkurunziza, qui est le président du réseau des professionnels rwandais du Canada. Voilà, merci beaucoup. Et puis, qui organise cet événement, le Rwanda
Youth,
voilà tout. Yeah. Merci beaucoup Sandra, merci beaucoup Sandra Gassana d'être venue nous parler. Cyril Ekwala.